Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle.
Et vous nous rendez la face de la terre.
Priant Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien. De jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur.
Ainsi soit-il.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pilice,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, je vous rappelle que le sujet de ces petites conférences, une fois par mois, un peu une synthèse du modernisme. C'est pas facile de résumer ce qu'est le modernisme. Rappelez-vous, j'ai souvent cité ce passage, que lorsque le pape Saint-Pilice a condamné le modernisme, il a dit « Le modernisme, c'est un égout collecteur de toutes les hérésies. Bon, » c'est-à-dire, on mettait toutes les bêtises qui n'ont jamais été dites par les hommes, tout ensemble, mélangez tout ça dans un sac pendant 10 minutes et vous avez le modernisme. Donc c'est pas très facile. En plus de ça, je vous l'ai déjà dit, le modernisme est un terme dangereux. Parce que ça donne l'impression que ces idées modernistes sont modernes, nouvelles. Elles ne sont pas nouvelles du tout. Mais c'est des vieilles idées qui reviennent toujours à la surface. Alors, donc, pour résumer un petit peu tout ça, j'ai pris ce texte qui est peu connu, qui s'appelle le serment antimoderniste. Je vous rappelle que ce serment est prononcé par les prêtres, les diacres et les sous-diacres, avant d'être ordonné. Bon. C'est un résumé de toutes les condamnations de Saint-Pilice. C'est pour ça que j'appelle ça une synthèse. Bon. Une fois que j'aurai terminé ce texte, je vais l'expliquer. J'ai déjà donné une conférence générale sur le serment antimodernisme, mais là je l'explique beaucoup, détail par détail. Bon, après, on ira sur un autre document d'un autre pape Léon XIII, qui s'appelle Testem Benevolentiae. Toutes les idées du modernisme, si vous voulez, ont été réunies dans une autre hérésie, que le pape Léon XIII a appelé en 1899 l'hérésie de l'américanisme, parce que c'est surtout aux États-Unis que ces idées se sont répercutées, si vous voulez, se sont rassemblées. Bon. Et puis, on verra ensuite d'autres textes pour essayer de vous aider, si vous voulez. C'est ce que j'ai expliqué au sermon d'aujourd'hui. Il faut se protéger. Le modernisme, c'est comme, en quelque sorte, une espèce de ver, on appelle ça le ver rongeur, un ver qui cherche à rentrer dans notre âme. Vous voyez, il faut s'en protéger. On se protège du modernisme par des idées droites, d'où l'importance de réapprendre aux gens à penser droit. Rappelez-vous ce que Mgr Lefebvre nous avait dit, je vous ai souvent cité cette remarque qui m'a beaucoup frappé à mon arrivée au séminaire en 1974. Mgr Lefebvre nous avait dit: vous allez devoir apprendre à vos fidèles à penser droit. Il nous avait dit, attention, vous avez été contaminé par le modernisme, par les idées libérales, depuis le lait de votre mère. Et il nous avait dit avec raison que plus on avait fait d'études supérieures, plus on était contaminé. On est tous contaminés. Bon. Alors, on va reprendre un petit peu tout ça, comme je fais à chaque fois. J'ai toujours utilisé ces systèmes. En début de conférence, je reprends ce qui a déjà été expliqué. Bon, parce que c'est quand même le système de la tuile, une tuile qui recouvre l'autre, et chaque fois on recouvre un petit peu. Le précédent, plus l'expérience m'a montré qu'en général, nos fidèles ont glorieusement oublié tout ce que j'ai raconté moi auparavant.
Oh, pas ici.
Ici, comme d'habitude, je vais vous poser des questions sur ce que j'ai expliqué le mois dernier, vous regardez avec un grand sourire, vous n'avez jamais entendu parler de ça. Alors voilà ce qu'on a déjà vu. On a vu le premier article, hein, donc, comme quoi Dieu peut être connu à la lumière naturelle de la raison. Ça, c'est très important. Il n'y a pas besoin d'être catholique, parce que c'est ce qu'on entend tout le temps. Moi, je ne suis pas catholique, donc je ne suis pas tenu à connaître Dieu, puisque je ne suis pas catholique. Ben, il n'y a pas besoin d'être catholique pour savoir que vous n'avez pas le droit de mentir, que vous n'avez pas le droit de voler, que vous n'avez pas le droit d'assassiner le voisin. C'est dans notre nature. C'est ce que j'explique au sermon d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la loi naturelle. Bon. J'ai expliqué la dernière fois, l'hérésie qui consiste à dire que la foi est nécessaire pour croire en Dieu, comment ça s'appelle? Le fidéisme. Voilà, un peu pareil. Fidéisme, donc c'est Malebranche. Fidéisme qui consiste à dire qu'il faut la foi pour prouver l'existence de Dieu. Il n'y a pas besoin de la foi pour prouver l'existence de Dieu. Il suffit de voir l'ordre de la création du monde. Il suffit de voir, bon, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Bon, on ne peut pas revenir comme ça à l'infini. On est bien arrivé, on est obligé d'arriver jusqu'à la première poule et le premier œuf. Donc au premier créateur. Au créateur. D'accord ? Donc, premier article de Saint Pilis, je reconnais que Dieu peut être démontré à la lumière naturelle de la raison. Bon, attention, la lumière naturelle de la raison, on ne va pas très loin. Qu'est-ce qu'on peut prouver avec la raison ? Pour prouver l'existence de Dieu, l'existence de l'âme, l'existence d'un Dieu qui récompense les bons et punit les méchants. Mais ça s'arrête plus ou moins là. Hein. Est-ce qu'on peut, avec la lumière naturelle de la raison, démontrer la Sainte Trinité ? Non. Ou l'incarnation ? Ou la rédemption, c'est impossible. Donc, Dieu, pour enlever ce voile, donne quelque chose de supplémentaire. Comment appelle-t-on cette chose supplémentaire qui enlève le voile ?
Révélation.
La révélation. Révélation, enlever le voile. Velum, en latin, c'est le voile. D'accord ? Bon. Deuxième article. Je connais les preuves extérieures de la révélation, c'est-à-dire les miracles et les prophéties, comme des signes très certains de l'origine divine et de l'origine chrétienne. Donc comment notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il prouvé sa divinité ? Par l'accomplissement des prophéties, toutes ces séries de prophéties qui avaient été annoncées depuis des millénaires, parfois avant notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas qu'entre Adam et Ève et notre Seigneur Jésus-Christ, c'est passé à peu près 7000 ans. Donc il y a eu toutes ces prophéties qui ont été annoncées. Par exemple, il y a une prophétie concernant la crucifixion. Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os. Bon, ça a été réalisé. Mais des détails incroyables. Il est dit dans les prophéties que, les prophéties de l'Ancien Testament, que, entre autres, ils ont compté, ils ont mis au sort ma tunique, et c'est exactement ce qui s'est passé au pied de la croix. Les soldats ont mis au sort la tunique de notre Seigneur. Hein. Donc, il y a eu les prophéties et les miracles. Les miracles sont un signe certain de la divinité de l'action de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a fait les miracles par sa propre force, sa propre personnalité, contrairement à un saint qui fait un miracle par la puissance de Dieu. D'accord ? Alors, voyons maintenant le troisième article. Troisièmement, je rappelle qu'on est dans le serment antimoderniste, 1er septembre 1910. Hein, c'est un motu proprio, ce qui s'appelle Sacrum Antistitu. Bon. Troisièmement, je crois, que l'Église est gardienne et maîtresse de la parole révélée, a été instituée immédiatement et directement par le Christ en personne, vrai et historique, lorsqu'il vivait parmi nous, et qu'elle a été bâtie sur Pierre, chef de la hiérarchie apostolique, et sur ses successeurs jusqu'à la fin des temps. Il y a beaucoup de vérités importantes là. Premièrement, première vérité, que notre Seigneur Jésus-Christ est le fondateur de l'Église. D'accord ? Deuxième vérité, qu'il a fondé son Église sur la personne de Saint-Pierre. Troisième vérité, qu'il y aura une succession jusqu'à la fin des temps. Bon, c'est important à préciser, surtout aujourd'hui, pas les temps qui courent. Alors, voyons, il y a un petit peu d'expliquer bien cela. Donc, Saint Pilis insiste sur le fait que cette vérité, l'Église catholique, a été fondée immédiatement et directement par le Christ en personne, vrai et historique. On verra après dans l'étude de l'encyclique Pascens Die elle-même, qui est la grande encyclique de condamnation du modernisme, que les modernistes font une distinction entre le Christ historique et le Christ véritable. C'est-à-dire, le Christ historique qui est mort sur la croix n'est pas le même que le Christ qui apparaît sur l'autel ou le Christ qui est dans votre cœur par la grâce sanctifiante. Vous voyez, on voit avec des conséquences pareilles. Donc, pour eux, le Christ historique, il est mort. Et quand on parle de la résurrection, pour un moderniste, ça veut dire quoi la résurrection ? Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ vit dans notre cœur. Il est mort, mais il vit d'une certaine façon dans notre cœur. Donc il est ressuscité dans notre cœur, c'est ça la résurrection.
Mais c'est pas Dieu.
Mais bien sûr.
Il est dans tous les cœurs.
Il est dans tous les cœurs.
C'est voilà. Pas Dieu.
Et ça, c'est repris de Vatican II, qui dit le Christ, par son incarnation, s'est uni à tous les hommes. J'ai déjà expliqué ça. Parce que le Christ est uni à tous les hommes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les hommes, le Christ vit dans tous les hommes. Si il vit dans tous les hommes, c'est quoi la présence de Dieu dans une âme? C'est ce qu'on appelle la grâce sanctifiante. Donc la grâce sanctifiante est pour tous les hommes. Et c'est la conséquence de cette hérésie qui consiste à dire que tous les hommes ont la grâce parce que la grâce est naturelle à l'homme. Vous voyez comme c'est très important de faire cette distinction essentielle entre la nature et la surnature.
Rousseau disait ça.
Mais oui, mais il n'y a pas que Rousseau, il y a tous les prêtres modernes aujourd'hui. Bon, les gens, même nos filles, ont parfois un mal fou à faire cette distinction. 9 fois sur 10, quand je pose la question aux gens, même à mes fidèles, est-ce que l'âme est quelque chose de naturel et quelque chose de surnaturel ? Est-ce que vous répondez ?
Naturel,
parce que je vous ai déjà expliqué 25 000 fois cette chose-là. Mais la plupart des gens à qui je n'ai pas expliqué, ils vont dire, surnaturel ! Mais non, c'est pas surnaturel. Surnaturel, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je suis de la nature ? Est-ce que l'âme fait partie de la nature de l'homme ? Bien sûr, vous avez déjà rencontré un homme qui se promène sans âme ? Dans la rue, vous n'en rencontrez rien, vous me prévenez. Bon, ça n'existe pas. Tous les hommes ont une âme, parce que ça fait partie de la nature. Qu'est-ce qui est surnaturel dans l'homme ? La grâce sanctifiante. Donc tous les hommes ont une âme, et tous les hommes n'ont pas la grâce. Rappelez-vous la phrase du livre de la Genèse, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Image de Dieu, parce qu'ils ont une âme naturelle, ressemblance de Dieu, surnature, la grâce.
Ils ont la grâce actuelle.
Alors attention, quand on parle de grâce, c'est la grâce sanctifiante, la grâce habituelle. Être en état de grâce, être en état de grâce habituelle. Bon. Est-ce que si j'ai perdu la grâce habituelle, j'ai perdu la grâce sanctifiante par un péché grave, est-ce que je peux retrouver la grâce sans une grâce du bon Dieu? C'est impossible. Donc Dieu donne à ce moment-là ce qu'on appelle une grâce actuelle. Expliquez ça plus tard. Donc faire attention donc, que le Christ a fondé directement en personne son Église de façon, et c'est un être vrai et historique. Parce qu'il y a des petits malins chez les modernistes, ils vont très très loin. Les modernistes vont dire, le Christ ne savait pas qu'il était Dieu. Il l'a découvert petit à petit. Je vais vous donner un peu un exemple comment les modernistes travaillent. Prenez par exemple la multiplication des pains. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui avec quelques pains et quelques poissons, va nourrir 5 000 personnes. C'est un miracle. Mm-hmm. Bon. Les modernistes vont dire, ah, mais c'est pas du tout un miracle, vous n'avez rien compris. Il a parlé de la charité et les gens ont partagé. Chacun avait un petit bout de pain, puis ils ont tous partagé avec ceux qui n'avaient rien, et le bon Dieu, comme ça, nourrit. Donc il a fait un miracle, c'est le miracle de la charité. Chacun a partagé avec le voisin. Mais c'est pas du tout ça le miracle. C'est pour ça que les modernistes ont horreur des miracles. Pourquoi les modernistes ne peuvent pas supporter les miracles ?
Ils ne peuvent pas l'expliquer.
Parce que les miracles sont une preuve de l'existence de Dieu, sont une preuve de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc j'ai pris tous les miracles. Et ça a été les grands modernistes de l'époque de Saint Pie X qui ont commencé à raconter ces bêtises. J'ai entendu parler de Loisy, de Renan, Ernest Renan, de Loisy, de Tyrell, et après toute la flopée de modernistes qui ont suivi. Et c'est pour ça que j'aime pas trop utiliser le terme de modernisme, parce que ça laisse à penser que c'est des idées modernes. C'est pas du tout des idées modernes. Derrière le modernisme, qu'est-ce qu'il y a ? La liberté, égalité, fraternité, d'où ça vient ces idées-là ? Qui est-ce qui a commencé à sortir la trilogie liberté, égalité, fraternité ?
La
franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, ça date de quand ça ? C'est 1717. D'accord ? Et en fait, 1717, on trouve déjà ça chez Luther, 1517. Mm-hmm. On trouve déjà ça dans la Renaissance, au XIVe siècle. Vous voyez ce que j'expliquais aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voit très bien une montée, si vous voulez, de la foi catholique, de la civilisation catholique, parce qu'on dit que le sommet, c'est 1274. Vous voyez ? Alors, reprenons un peu les termes de Saint Pie X. Donc, je reconnais, je crois que l'Église est gardienne et maîtresse de la parole révélée. Sous-entendu, elle est l'unique gardienne de la parole révélée. C'est elle qui a les clés d'interprétation des paroles de notre Seigneur, et a été instituée immédiatement, directement par le Christ en personne. Donc, l'Église n'a pas été instituée par Saint-Pierre, attention, l'Église a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, vrai et historique, lorsqu'il vivait parmi nous. C'est-à-dire que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans, en unissant sa divinité à notre humanité par le mystère de l'incarnation, il a fondé une Église, bâtie sur Saint-Pierre, chef de la hiérarchie apostolique, et tous ses successeurs. Il a tout résumé en une phrase. Donc Saint-Pierre et tous ceux qui l'ont suivi sont les représentants de notre Seigneur. Attention, le texte ne dit pas que Saint-Pierre est successeur de notre Seigneur. Attention. Le texte dit que l'Église a été bâtie sur Saint-Pierre et sur ses successeurs, successeurs de Saint-Pierre. Il faut faire attention aux termes qu'on utilise aussi. Notre Saint-Pierre n'a jamais créé l'Église catholique. Saint Pierre est représentant de notre Seigneur. Le pape est donc représentant de notre Seigneur et successeur de Saint Pierre. Et pas l'inverse. Ouais. Ça, c'est capital. Parce que si le pape est successeur de notre Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ?
Qu'il est Dieu.
Qu'il est Dieu ? Bien évidemment. Si je suis successeur de notre Seigneur, j'ai les mêmes pouvoirs que notre Seigneur. Or, notre Seigneur Jésus-Christ a des pouvoirs divins, puisqu'il est Dieu. Le pape n'est pas successeur de notre Seigneur. Donc, il faut faire très attention à ça, parce que c'est une bêtise qu'on entend très très fréquemment. Dans des pays, par exemple, quand j'étais en Espagne, c'était épouvantable, parce qu'ils avaient ces formules, et pratiquement, ils considèrent que le pape est la quatrième personne de la Sainte Trinité. Et ils en arrivaient à dire, c'est la grande formule de beaucoup, même de nos fidèles, je préfère avoir tort avec le pape que raison contre lui. Et même si le pape commence à me dire n'importe quoi, c'est le pape, je suis. Non. C'est jamais été l'enseignement de l'Église catholique. Et ici, le texte de Saint Pie X est très clair. Donc, je reconnais que l'Église, gardienne et maîtresse de la parole vérité, unique gardienne, unique maîtresse de la parole vérité, a été instituée directement par le Christ. Pas par Saint Pierre. Donc, c'est pas Saint Pierre qui a institué l'Église. On l'entend tout le temps. D'accord? Dieu a demandé à Saint Pierre de conserver quelque chose qui ne lui appartient pas. En théologie, on dit conserver le dépôt de la foi. Donc le rôle de Saint-Pierre, c'est de conserver quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc, quand on dit que Saint-Pierre est chef de l'Église, c'est même un peu dangereux, parce que c'est souvent interprété de travers. Il est successeur, quand on dit que le pape est chef de l'Église, il faut dire que le pape est successeur de Saint-Pierre et représentant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est, pour ça qu'on utilise un terme canonique spécial, il est vicaire. Qu'est-ce que ça veut dire, vicaire? Il est vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pape est le vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est qu'un vicaire? Dans le terme habituel, moderne, le vicaire du curé, celui qui représente le curé. Bon. Donc avant, c'est comme ça, il y a le curé, puis il y a le vicaire. Il y a des vicaires. Dans les grandes villes, il y a plusieurs vicaires. Bon. Les vicaires, ils représentent le curé, mais ils n'ont pas les pouvoirs du curé. D'accord? Donc leur rôle, c'est de représenter le curé n'est pas là. Voilà, le curé n'est pas là, donc le vicaire, il a un certain nombre de fonctions, il a un certain nombre de droits. Bon, je voudrais faire baptiser mon enfant, le vicaire peut le faire. Et encore, en principe, pas sans l'accord du curé. Non, pas sûr qu'on ne peut pas faire de bêtises. D'accord? Donc, le curé a des vicaires. Le vicaire n'a pas la fonction de curé. Bon, à tel point que si un curé meurt, le vicaire ne va pas prendre la place du curé. Il faut qu'il y ait un nouveau curé qui soit nommé par l'évêque. Et tant que le nouveau curé n'est pas nommé par l'évêque, le vicaire n'a aucun droit. D'accord? Donc, quand on dit que le pape est vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut bien comprendre les termes. Vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que il a comme fonction essentielle de garder le dépôt de la foi. Bon, garder le dépôt de la foi, qu'est-ce que c'est que le dépôt de la foi? Le dépôt de la foi, est-ce que ce dépôt de la foi appartient à Saint-Pierre? Non. Le dépôt de la foi appartient à Dieu et à son Église. Et comme Dieu ne change pas, le dépôt de la foi ne change pas. C'est pour ça que l'Église catholique enseigne que le dépôt de la foi est clos à la mort du dernier des apôtres, Saint-Jean. Saint-Jean est mort à la fin du 1er siècle, au début du 2e siècle, on ne sait pas très bien, autour des années 99-101 à peu près. Bon. Et donc, il faut s'accrocher à toutes ces grandes vérités. Donc, je répète, l'Église est gardienne et maîtresse de la parole de vérité. Elle est la seule à avoir ce rôle. Donc, il y a une vraie Église qui a pour rôle de garder le dépôt de la foi, et c'est ce que Saint Pie X dit sous une autre forme, gardienne et maîtresse de la parole révélée. Gardienne et maîtresse de la parole révélée, ou gardienne et maîtresse du dépôt de la foi, c'est la même chose. Le dépôt de la foi est clos à la mort du dernier des apôtres. Comme une espèce de grande malle, si vous voulez, dans laquelle il y a tout l'ensemble de la foi. Alors évidemment, il y a une objection qu'on nous fait tout de suite. Ah oui, mais quand un pape définit un nouveau dogme, est-ce que c'est parti du dépôt révélé? Réponse, oui. Quel est le dernier dogme défini par un pape?
Il a tué complètement.
Non.
Non, c'est pas sûr.
1950. L'Assomption de la Sainte Vierge. Il y a quelques conceptions, c'est avant. C'est 1854, je crois. Oui, je crois que c'est ça. 54, oui, 4 ans en l'autre. Bon, le dernier dogme de foi, c'est l'Assomption de la Sainte Vierge Marie. Et lorsque le pape Pie IX, Pie XII, 1950 a défini le dogme de l'Assomption de la Sainte Vierge. C'est quoi ce dogme? Pour lequel on croit que la Sainte Vierge est montée au ciel avec son corps. Bon. Le dogme ne dit pas si elle est morte ou non, ça on ne sait pas. C'est pour ça que le dogme dit, à la fin du cours de sa vie terrestre, vous avez le droit de penser, comme les Grecs, qu'elle s'est endormie. Ils appellent la dormition de la Sainte Vierge. Ou, comme l'Église romaine, qu'elle est morte, puis montée au ciel avec son corps. Ça, c'est deux fois. Il est clair et net que lorsque le pape Pie XII a décrété le dogme de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, il a appris quelque chose qui était déjà dans le dépôt de la foi. J'avais pour preuve, si vous prenez des missels anciens, d'avant 1950, prenez un missel par exemple des années 30, dont le fait des années 30, si vous regardez au 15 août, vous avez trouvé la fête de la Sainte Vierge dans son Assomption.
Pardon, monsieur l'abbé, le couronnement au ciel, c'est un dogme ou c'est juste la tradition?
Je ne pense pas que ce soit dogme de foi en tant que tel, mais c'est une tradition telle que...
Oui, c'est dans le chapitre.
La Très Sainte Vierge Marie est reine. Donc, il faut comprendre encore une fois le terme. La reine n'est rien sans le roi. Donc la reine est associée à un roi, évidemment. Et donc une reine, même sur le plan politique, elle n'a aucun pouvoir par elle-même. Elle a un pouvoir délégué par le roi. Donc faire attention aux termes qu'on utilise. D'accord ? Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, je reprends un petit peu tout ça pour que les choses soient claires. Donc le pape est vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire qu'il représente notre Seigneur Jésus-Christ. Le pape n'a aucune autorité pour modifier le dépôt de la foi, il ne peut pas, il a jamais été institué pour ça. Donc Saint-Pierre, le rôle de Saint-Pierre, c'est de garder ce qu'a enseigné notre Seigneur Jésus-Christ. Et la tradition explique que lorsque notre Seigneur est ressuscité d'entre les morts, après la résurrection de notre Seigneur, le jour de Pâques, il est resté pendant 40 jours avec ses disciples. Jusqu'à la fête de l'Ascension, 40 jours plus tard. Bon. Et ensuite, 10 jours plus tard, il va donner le Saint-Esprit à ses apôtres pendant la fête de la Pentecôte. Bon. Et pendant ces 40 jours, qu'est-ce qu'il a fait, notre Seigneur? Il n'a pas appris la cuisine aux apôtres. Il n'a pas joué au golf avec eux. Les actes des apôtres disent qu'il parla du royaume des cieux. Et toute la tradition de l'Église explique que dans ces 40 jours, notre Seigneur n'était pas tout le temps avec eux, parce qu'il avait les privilèges des corps glorieux. Rappelez-vous le privilège des corps glorieux. Donc il avait l'impassibilité, il avait l'agilité, la clarté et la subtilité. Donc il n'était pas tout le temps avec eux. Mais pendant 40 jours, il a expliqué justement toutes ces choses-là. Hein? Alors, donc, Dieu a créé son Église, c'est lui qui est fondateur de l'Église, et pas Saint-Pierre. Et il a bâti son église sur Saint-Pierre. Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les forces du mal ne prévaudront pas contre toi. Attention, pas comprendre la phrase de travers, parce que ça c'est une objection qu'on entend tout le temps. Le bon Dieu a dit que les forces du mal ne prévaudront point contre son église. Regardez le bazar actuellement. Ah, mais attendez, ça c'est pas du tout le bon Dieu qui l'a fait. Le bazar c'est nous qui l'avons mis. C'est pas le bon Dieu. Encore une fois, La foi catholique, elle ne change pas parce que c'est toujours le même dépôt de la foi. Donc le pape, et je reprends les termes, est successeur de Saint-Pierre et représentant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors là, il faut beaucoup insister, c'est que le Christ a institué en personne l'Église catholique de façon, et que le Christ est vrai et historique, qu'il a véritablement existé et véritablement fondé son Église lorsqu'il vivait parmi nous. Le pape insiste. Et qu'elle a été bâtie sur Pierre, chef de la hiérarchie apostolique, et successeur jusqu'à la fin des temps. Donc l'Église est en tant que telle éternelle. C'est pour ça qu'il y a trois parties dans l'Église. Quelles sont les trois parties de l'Église?
Triomphante.
Hein?
Triomphante, militante et souffrante.
Voilà.
Enfin, souffrante au milieu.
Bon, militante, l'Église. Milet, c'est quoi à la terre? C'est le soldat. Donc l'Église militante, c'est l'Église ici-bas. Vous et moi, on est membres de l'Église militante. D'accord ? Purgatoire, c'est l'Église souffrante. Au ciel, c'est l'Église triomphante. L'Église du ciel est éternelle. Hein? Donc l'Église militante n'est pas éternelle. L'Église souffrante n'est pas éternelle. Mais l'Église triomphante l'est. Et donc, comme à la fin des temps, l'Église triomphante va rester, mais pas l'Église souffrante ni l'Église militante, on peut dire que l'Église est éternelle. D'accord ? Dans ce sens-là. Donc, si vous voulez, Saint Pie X, dans sa grande encyclique Pascendi, qu'on peut étudier, mais qu'il faut étudier avec plus de prudence. Moi, je ne donne pas l'encyclique Shendi comme ça aux fidèles, parce qu'elle est beaucoup trop compliquée. Si je donne l'encyclique Shendi, qui est la grande encyclique de Saint-Pilice du mois de septembre 1907, je dis toujours aux gens, pour comprendre le modernisme, passer par le serment antimoderniste, qui est beaucoup plus court, un peu plus facile, quoique assez philosophique, et la deuxième encyclique que les catholiques peuvent étudier facilement, c'est notre charge apostolique. Notre charge apostolique, c'est la grande condamnation du Sillon, 1910. Le Sillon, c'était le modernisme avant l'heure, tout simplement. Les mêmes idées d'aujourd'hui, les mêmes idées de Vatican II, quand vous étudiez les idées de Marc Sandier, le fondateur du Sillon, c'est les idées de Vatican II. D'accord ? C'est la même chose. Donc, Saint Pidice, justement, pour protéger, en quelque sorte, ces grandes vérités qui viennent d'asséner, ici, dans le troisième point du serment antimoderniste, il va parler dans son encyclique, l'encyclique Pachendi, de trois grands faisceaux d'erreurs. Et c'est contre ces faisceaux d'erreurs qu'il dit que le Christ a en personne fondé son Église, qu'il est vrai et historique, qu'il a véritablement vécu parmi nous. Ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas une image de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ni notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, et qu'il a fondé son Église sur Saint-Pierre. Et sur tous ses successeurs jusqu'à la fin des temps, parce que l'Église est éternelle encore une fois. Que l'Église soit éternelle, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'erreur parmi les hommes d'Église. Mais monsieur l'abbé, comment est-ce possible qu'il y ait des erreurs parmi les hommes d'Église? L'exemple typique, c'est qui? C'est Judas. Alors, Judas, il a trahi notre Seigneur. Mais, c'est un point très important, Dieu a voulu protéger son successeur, non pas son successeur, son représentant direct, Saint-Pierre, par un privilège très particulier, qui est le privilège de l'infaillibilité pontificale. Bon, dont on parlera parce que c'est quelque chose d'absolument fondamental. Donc, contre ces grandes vérités, Saint-Pidice va condamner trois faisceaux d'erreurs. Alors, c'est un terme un peu compliqué, mais il faut qu'on vous bien comprendre. L'immanentisme, l'évolutionnisme, l'agnosticisme. C'est exactement ce que j'explique au sermon d'aujourd'hui. Je vais parler de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin est le prince du réalisme, la philosophie réaliste, la philosophie collée à la réalité. La philosophie coupée de la réalité, on appelle ça la philosophie subjectiviste. C'est l'idéalisme. D'accord ? Ce que j'ai expliqué au sermon, je n'ai pas dormi pendant le sermon. Bon. Eh bien, cette philosophie, rappelez qui est le fondateur de la philosophie subjectiviste ?
Kant.
Immanuel Kant. Bon. Eh bien, cette philosophie subjectiviste va donner trois grandes erreurs. L'immanentisme, l'évolutionnisme, l'agnosticisme. En fait, c'est la même erreur avec trois noms différents. Immanentisme, manere en latin, ça veut dire rester in, à l'intérieur. C'est ce que j'ai expliqué au sermon. Immanentisme, c'est l'erreur de ceux qui disent « je fais ma propre vérité » parce que, au lieu de soumettre mon intelligence à Dieu, je soumets Dieu à mon intelligence. Chacun son Dieu, chacun sa vérité. Rappelez-vous la fausse promesse de Lucifer, du démon à Adam et Ève. Vous deviendrez comme des dieux et vous déciderez ce qui est bien, ce qui est mal. D'accord ? Donc, première conséquence de ces erreurs, l'immanentisme. Je fais ma propre vérité, je fais ma propre source de révélation en moi-même. Et c'est pour ça que Saint-Pierre, que Saint-Pilice insiste que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a fondé l'Église, et pas nous. Donc l'immanentisme entraîne l'évolutionnisme. C'est-à-dire tout change. Tout change, la vérité change, parce que la vérité est fondée sur, d'après les hommes modernes, sur le nombre. C'est le nombre qui fait la vérité. Comment s'appelle le système politique qui fonde la démocratie, c'est ça ? Avec le temps des élections qui arrivent, alors qu'est-ce qu'on entend comme bêtise sur le sujet? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, tu parles. La démocratie, c'est le pouvoir du nombre, oui. Pas du tout le pouvoir du peuple. Or, le nombre change toutes les 5 minutes. Donc, la vérité n'existe pas. On retrouve toujours les mêmes erreurs. D'accord? Donc, l'immanentisme entraîne l'évolutionnisme. Et l'évolutionnisme va entraîner l'agnosticisme. Qu'est-ce que c'est qu'un agnostique? Un agnostique, c'est quelqu'un qui prétend être incapable de connaître, d'être sûr de quoi que ce soit. C'est le doute universel. Le doute universel, c'est déjà Descartes. Hein. C'est ça. Bien avant. Donc le doute universel, c'est on peut dire de rien. Vous pensez que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, mais c'est très bien, vous avez le droit de penser ça. Moi, je pense que mon chien est l'incarnation du bon Dieu. Je suis parfaitement le droit de penser que mon chien est l'incarnation du bon Dieu ou mon lapin. Hein, je fais ce que je veux, chacun libre, chacun sa propre vérité. On retrouve les mêmes bêtises, le subjectivisme. C'est pour ça que Saint Pie X, dans son encyclique, il va résumer ici tout. Il réunit toutes ces erreurs, l'immanentisme, l'évolutionnisme, l'agnosticisme, sous un seul nom, le subjectivisme. Et quand il dit que c'est l'ego collecteur de toutes les hérésies, il explique bien que c'est une maladie de l'intelligence. Cette maladie de l'intelligence, il l'appelle le subjectivisme. Il dit « Je me soumets la vérité ». Chacun sa vérité. À chacun sa vérité, quelle est la conséquence directe de cette phrase ? Si chacun fait sa vérité, chacun a sa propre conscience. Liberté de conscience. Et liberté de conscience, c'est ça. C'est le grand sésame aujourd'hui qui ouvre toutes les portes modernes. Liberté de conscience, je suis ma propre conscience.
Est-ce qu'on peut dire que l'humanisme, c'est vraiment la liberté de conscience ?
L'humanisme, si vous voulez, les grands principes de l'humanisme, l'humanisme, c'est la Renaissance. La Renaissance, c'est le début de la séparation avec Dieu. Souvent, ça ne s'est pas fait d'un seul coup. On voit très bien chez les humanistes, par exemple, comme Erasme, comme déjà un peu Descartes, hein, on voit très bien qu'ils se coupaient de Dieu, mais ils gardaient encore la foi en Dieu, un peu la foi en l'Église. Ça s'est fait petit à petit. Et on va arriver à la coupure complète avec l'Église catholique, avec la franc-maçonnerie, 1717, Martin Luther déjà. Mais Martin Luther conservait encore certaines choses de l'Église catholique. Hein? Et on va arriver à la coupure complète avec la Révolution en 1789. Puis après, avec Vatican II. Hein? Donc, il faut bien comprendre ça. Oui, chaque terme utilisé par Saint Pie X est important. Donc, Dieu a bâti son Église sur Saint Pierre, et pour protéger son Église, il va donner à Saint Pierre le pouvoir de l'infaillibilité pontificale. Alors là, encore une fois, faire attention aux termes utilisés. L'infaillibilité pontificale, vous savez que les modernes disent que la plus grande erreur de l'Église, c'est d'avoir défini l'infaillibilité pontificale. Ça, c'est Pie IX en 1870, Vatican I. Bon. Alors le pape est, en tant que successeur de Saint-Pierre, en tant que représentant de notre Seigneur, est infaillible. Pas à chaque fois qu'il ouvre la bouche. La seule personne qui est infaillible à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est notre Seigneur. C'est évident, du bon sens. D'accord ? Le pape est infaillible dans certains domaines, dans le domaine de la foi et des mœurs. Bon. Dans le domaine de la foi et des mœurs, le pape est infaillible quand il parle comme pape, sur la foi et les mœurs, avec intention d'obliger toute l'Église. Bon. S'il parle comme personne privée, le pape peut avoir son petit déjeuner, inviter certains amis, discuter avec eux de certaines choses. Il peut se tromper. Il peut parler comme personne privée. Bon. Le pape peut dire dans une discussion, moi je pense qu'il va faire beau demain. Puis le lendemain, il tombe des cordes. Bon. Ah, le pape s'est trompé. Il a annoncé le beau temps. Et puis il tombe des cordes. Mais le pape, il n'est pas infaillible sur le temps qu'il va faire demain. C'est évident. Donc il faut qu'il parle comme pape, sur la foi et les mœurs. Si le pape fait une déclaration de politique extérieure, par exemple, géopolitique, il n'est pas faillible. C'est pour ça qu'il y a eu des erreurs très graves de pape en matière politique. Je pense que l'erreur la plus grave qui concerne la France, c'est le ralliement de 1892, dont la France n'est jamais relevée. Moi, je dis toujours que la France est morte comme civilisation catholique, comme pays catholique, en 1892 avec le ralliement de Léon XIII. Pareil, par exemple, avec la condamnation par Pie XI de Christ-et-Rose, la condamnation par Pie XI aussi de l'Action française, etc. Vous voyez, ça, c'est des erreurs politiques. Le pape peut faire une erreur politique. Bon. Donc, le pape...
Et par contre, il peut pas se tromper quand il condamne des courants politiques, comme le nazisme ou le communisme.
Alors, si ça touche à la foi et aux mœurs, oui. Et c'est indirectement. C'est une infaillibilité indirecte, d'accord, pas directe. Donc le pape, s'il parle comme pape sur la foi et les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église, il est infaillible. Bon. Donc il faut bien encore une fois comprendre ça, parce que pour qu'il n'y ait pas de confusion chez nos fidèles. Donc le texte de Vatican I, c'est Vatican I qui a défini tout ça, explique que le pape est infaillible dans deux domaines essentiels, donc sur la foi et les mœurs, je viens d'expliquer, et est infaillible dans son magistère. ordinaire et dans son magistère extraordinaire. Bon. Donc le pape peut être infaillible de deux façons. Soit en tant que personne unique, comme chef de l'Église, ce qu'on appelle le magistère pontifical. Le pape peut faire une déclaration, et contrairement à ce que racontent beaucoup de gens, il n'a pas besoin de l'accord de tous les cardinaux pour faire sa déclaration. Il peut déclarer, par exemple, la canonisation de quelqu'un. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle le magistère pontifical. Ou il peut également manifester son infaillibilité en union avec tous les évêques avec lui. Attention, c'est pas parce que les évêques sont unis avec le pape que le pape peut être infaillible. Le pape, en quelque sorte, est infaillible aussi sans les évêques ou avec les évêques. Et quand il est infaillible avec tous les évêques, unis à lui, on appelle ça le magistère universel. Dans chaque cas, il y a une distinction. Magistère pontifical ou magistère ordinaire, universel, qui peut être soit ordinaire, soit extraordinaire. C'est une différence de solennité, c'est tout. Donc, il y a quatre cas d'infaillibilité pontificale. Infaillibilité pontificale ordinaire, premier cas. Deuxième cas, infaillibilité pontificale extraordinaire. Troisième cas, infaillibilité universelle, infaillibilité pontificale ou universelle, ordinaire, et dernier cas, infaillibilité du pape universelle et extraordinaire.
D'accord. Et est-ce qu'on peut dire du coup que les encycliques du pape sont toutes infaillibles ou certaines seulement ?
Il faut voir si toutes les conditions sont remplies. Bon. Encore une fois, il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce qu'on a dit par exemple que, je vous donne un exemple, le pape Pie XII, en 1951, octobre 51, a fait une déclaration très importante au congrès des sages-femmes italiennes. Bon, c'est le texte, un des textes les plus importants que j'explique à fond, en large et en travail, lors des préparations au mariage. C'est le texte où le pape Pie XII donne les règles d'utilisation pour des époux catholiques la contraception naturelle. Dans quel cas des époux ont le droit d'utiliser une contraception naturelle? Bon, il explique très bien les choses. Bon. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas infaillible puisqu'il s'adressait qu'aux sages-femmes italiennes. Où est l'erreur? L'erreur consiste à croire que le pape ne s'adressait qu'aux sages-femmes italiennes. En fait, qu'est-ce qu'il dit? L'enseignement du pape, parce que ça on l'a sorti plusieurs fois, l'enseignement du pape Pie XII aux sages-femmes italiennes s'adresse à tout le monde, tous les catholiques, tous les prêtres. La preuve, c'est que nous, prêtres, moi je ne suis pas italien, je ne suis pas sage-femme, mais je suis tenu par les règles que Pie XII a données aux sages-femmes. À tel point que si quelqu'un me dit, un père de famille ou une mère de famille me dit au confessionnal, je refuse catégoriquement de suivre les règles de Pie XII dans mes relations avec mon mari, je n'ai pas le droit de l'absolution. C'est bien la preuve que j'y suis tenu par ces règles. Donc, dans un cas comme ça, le pape Pie XII parle comme pape, il ne parle pas comme jardinier du Vatican, il parle sur la foi et les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église. C'est infaillible. Deuxième erreur qu'on entend tout le temps, ça c'est l'erreur de la Fontaine des Habilis, le pape n'est infaillible que lorsqu'il définit quelque chose. Où est l'erreur? Où est l'erreur, ce que je viens de vous dire? Le pape est infaillible dans son magistère ordinaire, son magistère extraordinaire. Quand on parle d'une définition solennelle, on parle d'un magistère ordinaire, un magistère extraordinaire. Extraordinaire par définition. Une définition solennelle, c'est magistère extraordinaire. Or, l'Église insiste bien que le pape n'est pas infaillible que dans ses déclarations de magistère extraordinaire, mais aussi dans son magistère ordinaire. Magistère ordinaire, ça veut dire définition? Non. Non. La définition, c'est magistère extraordinaire. Donc, quand je parle du magistère ordinaire, c'est une chose qui n'est pas définie.
C'est pas... canonisation, par exemple.
Une canonisation, c'est déjà un magistère extraordinaire.
Ah oui,
ah oui. Bah, c'est des encycliques.
Mais par exemple, si je... on répète ce que l'Église catholique a toujours enseigné, c'est magistère ordinaire. Bon, si je dis, le pape, il y a trois personnes dans la Sainte Trinité, c'est infaillible ou non? C'est infaillible. Bien sûr que c'est infaillible. Pourtant, c'est la Bellafitte qui parle. C'est pas l'infaillibilité à cause de la Bellafitte. La Bellafitte, c'est content de répéter ce qui a toujours été fait. Donc, Monseigneur a fait une belle formule, il nous disait tout le temps, est infaillible ce qui, le magistère ordinaire, correspond à l'enseignement de l'Église, qui a toujours été suivi pendant toute l'histoire de l'Église. Mmh. Ce qu'on appelle l'enseignement ordinaire. Donc il est absolument faux de penser que le pape n'est infaillible que dans son magistère extraordinaire. Ça, c'est faux. Mmh. Le pape est aussi infaillible dans son magistère ordinaire.
Alors, je vous donne une colle. Oui. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait une encyclique, pas infaillible?
En soi, dans la pratique, non, parce que le pape va pas faire une encyclique sur la façon de planter les haricots.
Mais
supposons qu'en soi, si un pape faisait une encyclique concernant un phénomène politique, par exemple, et qu'il ne parle pas directement de la foi et les mœurs, non, ça serait pas infaillible. Parce qu'il faut que ça soit sur la foi et les mœurs.
Par exemple, la semaine sainte, depuis 12.
Alors là, c'est autre chose.
Ça a changé par rapport à...
Là, c'est autre chose, parce que le pape, ça c'est l'enseignement, c'est la théologie de l'Église, qui enseigne que le pape est infaillible aussi, c'est l'infaillibilité indirecte du pape, quand, par exemple, dans toutes les canonisations, une canonisation est infaillible. Donc, si vous reconnaissez Benoît XVI ou Jean-Paul II ou François comme pape, vous êtes obligé de reconnaître Saint Jean-Paul II et Saint Paul VI et Saint Jean III. Bon. Parce que le pape est infaillible dans ses canonisations. Heureusement, d'ailleurs, vous vous rendez compte, si le pape n'était pas infaillible dans ses canonisations, ça veut dire qu'un autre pape pourrait venir en disant, dis donc, la canonisation de mon prédécesseur, je le prends, moi. Alors je le décanonise et puis il était au ciel, on l'enlève, on le met au purgatoire pendant 50 ans.
Elle est nécessaire, l'infaillibilité.
Eh bien, évidemment. De même, c'est la même chose, attention, c'est l'enseignement de l'Église, que le pape est infaillible aussi lorsqu'il introduit dans l'Église une modification liturgique pour toute l'Église universelle. C'est le cas du pape Pie XII qui a introduit par exemple la fête de Saint-Joseph au 1er mai. C'est une modification liturgique obligatoire pour toute l'Église universelle.
Surtout pour les modifications liturgiques.
Mais si c'est une modification liturgique autorisée pour un diocèse, non. Il faut que ce soit pour toute l'Église.
Ça ne change ni la foi ni les mœurs.
Voilà. Mais ça c'est très important aussi à comprendre. Donc les modifications, on me pose constamment cette question, avec la semaine sainte qui arrive encore une fois, est-ce que je suis obligé en conscience de suivre les modifications liturgiques obligatoires du pape Pie XII qu'il a décrété en 1955 et les modifications de la semaine sainte? Quand quelqu'un me dit, monsieur l'abbé, est-ce que vous suivez les modifications de la semaine sainte du Pie XII, de pape Pie XII de 1951? Je réponds oui, sauf si vous pouvez me prouver que Pie XII n'est pas pape. Alors, de dire que Pie XII est pape, et de dire en même temps, je suis libre de ne pas suivre les modifications liturgiques qu'il a imposées pour l'Église universelle, c'est prendre les enfants du bon Dieu pour les canards sauvages. Je m'excuse du terme, mais c'est exactement ce qui se passe. Vous voyez? Donc là, encore une fois, il faut avoir l'humilité de suivre ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Et tout est résumé dans la phrase de Saint Pie X. Je crois donc fermement que l'Église est gardienne et maîtresse de la parole de vérité. Et l'Église est l'unique qui a l'interprétation officielle de l'Église. L'interprétation officielle de Dieu, c'est l'Église catholique. Donc il ne peut y avoir de vérité en dehors de l'Église catholique. C'est absolument impossible. Et me dire, même monsieur l'abbé, il y a des vérités en dehors de l'Église catholique. Par exemple, dans l'Église orthodoxe. Dans l'Église orthodoxe, il y a des choses qui sont vraies. Dans le protestantisme, il y a des choses qui sont vraies. Par exemple, si le protestant croit à la Sainte Trinité, la plupart des protestants croient à la Sainte Trinité, c'est vrai. Mais ça n'appartient pas au protestantisme, ça vient de l'Église catholique. C'est pareil pour l'orthodoxie. Vous voyez? Donc attention encore une fois aux termes que nous utilisons. Donc l'Église est gardienne et maîtresse de la parole révélée. Elle est la seule à avoir l'interprétation historique. L'interprétation divinement révélée en quelque sorte par Dieu. Donc personne d'autre ne peut avoir cette vérité. L'Église catholique est l'unique Église qui a la vérité catholique. Non pas par ses propres forces, mais dans la mesure où elle parle en tant que vicaire du Christ. L'Église est vicaire de Christ.
Parce qu'elle est assistée par le Saint-Esprit.
Voilà. Mais elle est assistée dans le Saint-Esprit dans la mesure où le pape a l'intention de garder le dépôt de la foi. Donc, les gens qui me disent que François est pape, il faut quand même d'abord qu'ils me prouvent en quoi François Bergoglio a gardé le dépôt de la foi. Bon courage. Il fait tout pour le détruire. Même les modernistes les plus farouches reconnaissent que François a changé complètement le dépôt de la foi. Et c'est absolument évident. Il a changé le dépôt de la foi, notamment sur les sacrements. Quand le François Bergoglio dit que les musulmans peuvent être sauvés sans le baptême, ça touche à la foi. Parce que ça veut dire indirectement qu'il n'y a pas besoin du baptême pour être baptisé. Vous voyez ? Bon. Quand François Bergoglio prétend qu'on peut annuler les mariages, il nie l'indissolubilité du mariage chrétien. Mm-hmm. Donc il touche à la foi. Ouais. Et tout est comme ça. Vous voyez. Donc il faut bien s'accrocher à ces choses-là. C'est absolument fondamental. Bon, une fois que quelque chose a été pris et explicité dans le dépôt de la foi, bon, un autre pape ne peut pas changer ces choses-là. L'exemple classique qu'on donne tout le temps pour expliquer ça, parce que ce n'est pas des choses faciles, n'oubliez pas qu'en face de nous, on a présenté tout le poids de la fraternité Saint-Pilice, qui est énorme, tout le poids de la fraternité Saint-Pilice, qui prétend, mordicus, que le pape n'est pas infaillible dans son magistère extraordinaire, alors que le Concile Vatican I dit expressément le contraire, noir sur blanc, que le pape est infaillible aussi dans son magistère extraordinaire et dans son magistère. Non, je reprends. La fraternité Saint-Pilice dit que le pape n'est pas infaillible dans son magistère ordinaire. Or, Vatican I précise exactement le contraire, que le pape est infaillible dans son magistère extraordinaire et dans son magistère universel ordinaire. Et donc, il faut faire, encore une fois, très attention à ça et s'accrocher à ces choses-là. Donc, alors, évidemment, l'objection, c'est de dire, mais il y a eu des papes qui se sont trompés en matière de foi et de mœurs. Ça, c'est une objection extrêmement grave. Parce que si on peut prouver qu'un pape s'est trompé en foi et mœurs, c'est-à-dire que la définition du pape Pie IX saute.
Donc on ne peut plus faire confiance à lui.
Voilà. Alors il faudra peut-être expliquer un peu les choses. Que lorsque le pape Pie IX s'est pas réveillé un beau matin, en 1871, en disant « Voilà, j'ai déclaré l'infallibilité ». Pas du tout. Il a fait d'abord toute une enquête auprès des cardinaux. Les cardinaux, c'est les conseils du pape, hein. Une enquête auprès des cardinaux pour justement voir en quoi est-ce qu'il y avait des problèmes. Un des problèmes, une des objections, c'est justement un cardinal qui dit « Attention, on dit qu'il y a eu des papes dans l'histoire de l'Église qui ont erré en matière de foi et de mœurs. » Bon, non pas de foi et de mœurs personnelles. Encore une fois, il faut bien distinguer les choses. Vous pouvez avoir un pape qui erre dans ce qui commet des fautes personnelles contre les mœurs, mais qui n'a jamais erré en tant que pape sur les mœurs. Donc la protection du Saint-Esprit ne va pas, l'infaillibilité, ça ne veut pas dire que le pape ne peut pas pécher. L'infaillibilité, ce n'est pas l'impeccabilité.
Sinon, il serait tout simple.
Donc le pape peut pécher contre la foi, les mœurs, contre n'importe quelle, toutes les vertus, contre la vertu de chasteté, la vertu de pureté, la vertu de foi, l'espérance, de charité, peut commettre des péchés. C'est bien pour ça qu'il y a à Rome un poste important qu'on appelle le confesseur du pape. Le pape se confesse comme tout le monde. Et donc, attention, l'infaillibilité n'est pas l'impeccabilité. Le pape est infaillible sur la foi et les mœurs, dans son magistère ordinaire et dans son magistère extraordinaire, mais il n'est pas impeccable.
Il n'est pas Dieu.
Il n'est pas Dieu. Non, donc le pape peut raconter des bêtises.
Je ne sais pas si c'est pas si confesseur beaucoup, le François.
Bon, ça c'est autre chose. Mais avant, il y avait un vieux cardinal qui était confesseur officiel du pape. D'accord ? Donc ça, vous voyez, ce sont des choses absolument fondamentales. Il faut s'accrocher à tout ça.
Et est-ce que c'était toujours le même confesseur quand il y avait un pape qui décédait ?
Le pape avait le droit de choisir son propre confesseur. En général, c'était un vieux cardinal. Mais il avait le droit de choisir un simple prêtre, si vous voulez, comme confesseur. Il est absolument libre dans ce domaine. Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre que le pape peut errer. Donc, je reprends l'exemple que je voulais vous donner, parce que c'est quand même l'exemple le plus grave. C'est l'exemple de la liberté de conscience. La liberté de conscience a été solennellement condamnée pour je ne sais pas combien de papes. La définition la plus importante, c'est la définition du pape Pie IX, en 1864, je n'ai plus les dates avec moi, je crois que c'est 64, avec l'encyclique Quantacura. D'accord ? C'est qui Quantacura ? Il condamne la liberté, liberté de conscience, 1864, en disant que c'est liberté de perdition et d'insanité. J'ai déjà expliqué plusieurs fois. Bon. 100 ans plus tard, je dis bien 100 ans plus tard, presque jour pour jour, en 1965, donc 101 ans plus tard, Vatican II dit exactement noir sur blanc au contraire. En disant que la liberté de conscience, non seulement n'est pas condamnable, mais elle doit être reconnue comme droit fondamental de tout homme, et bien reconnue par les États. Donc voilà un concile, Vatican II, qui dit le contraire de ce que l'Église a enseigné auparavant.
Explicitement.
Alors, on va le dire, mais le concile Vatican II n'étant pas pastoral, n'est pas un concile dogmatique. Vous pouvez m'expliquer comment un concile peut être purement pastoral sans être dogmatique en même temps ? C'est se moquer du monde. Le concile Vatican II, bien sûr qu'il est dogmatique. La preuve, la condamnation, cette phrase que je viens de vous citer, dans le décret de décembre 1965 sur la liberté de conscience, on touche en plein le dogme. La liberté de conscience, c'est pas du pastoral. C'est du dogme avec des conséquences pastorales, pas pareil. Donc voilà un pape, quelqu'un qui se prétend pape, qui dit le contraire. Ce n'est pas possible. Alors évidemment, c'est cet argument qui est utilisé pour essayer d'empêcher l'infaillibilité pontificale. Lorsque le pape Pie IX, pour revenir à l'exemple que je prenais, lorsque le pape Pie IX a voulu décréter l'infaillibilité pontificale, il a fait justement une recherche pour pouvoir, s'il y avait eu dans l'histoire de l'Église, un pape qui avait véritablement erré en matière de foi et de mœurs. Il suffit de trouver un seul cas, et puis c'était fini, il ne pouvait pas déclarer l'infaillibilité pontificale en matière de foi et de mœurs du pape. Et donc il a demandé à un grand théologien, un grand historien, qui s'appelait le père Constant, l'abbé Constant, de faire une étude historique. Il a ouvert tous les documents du Vatican pour qu'une étude historique soit faite sur tous les cas dans l'histoire de l'Église où on prétendait qu'un pape avait erré en matière de foi et de mœurs. Bon, on a parlé du cas d'Honorius III, du cas du pape Liber, etc.
Du pape. Hein?
Bon, par exemple, on entend même la fraternité Saint-Pilis dire, moi j'ai entendu les prêtres de la fraternité, le pape Liber s'est trompé. Petit détail technique, tout petit détail. Pourquoi il parle du pape Liber alors que le pape Liber est canonisé par l'Église ? Pourquoi il dit jamais le pape Saint-Liber s'est trompé ? Et quand il y a un prêtre de la fraternité qui me sort cette ânerie devant moi, je dis pardon, le pape Saint-Liber s'est trompé ? Alors là, il s'est un peu gêné. Non, le pape Saint-Liber, il est canonisé par l'Église.
C'est ça.
Vous voulez expliquer comment un pape peut être canonisé par l'Église et avoir en tant que pape raconté des âneries ? Et donc le pape Pie IX avait fait cette étude. Deux gros volumes. Et la conclusion de l'abbé Constant a été claire et nette. Il n'y a pas un seul cas historique. À chaque fois, c'est des mensonges ou des ariens ou des protestants. Ou des modernistes de l'époque. Et donc à la suite de ça, le pape a fait sa déclaration. Oui. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ça qui est terrible dans le monde moderne, c'est que beaucoup de gens ont en quelque sorte peur de la foi catholique, peur de l'Église. Ils ont l'impression qu'il y a une opposition entre la foi et la science, par exemple, ou la foi et la raison. Il n'y a pas d'opposition entre la foi et la science. Moi, je n'ai pas peur de la science moderne. Ah, mais si, qu'est-ce qui va se passer si la science moderne découvre que Adam et Ève n'ont pas été créés par Dieu ? Mais ce n'est pas possible, puisque ça va contre la foi. La lumière qui me dit que Adam et Ève ont été créés par Dieu, c'est une lumière divine. La lumière qui prétend éclairer les scientifiques, soit des scientifiques d'aujourd'hui, qui disent que Adam et Ève ont été créés à partir de je ne sais pas trop quoi, et qui sont l'évolution d'un singe vert en Afrique, bon, ça c'est une lumière humaine. Une lumière humaine peut se tromper, pas la lumière divine.
Puis la Bible n'est pas considérée comme un livre scientifiquement révélé. C'est pas un livre
oui, mais il ne peut pas y avoir d'erreur.
Il n'y a pas d'enseignement scientifique dans la Bible, parce que c'est ce qu'ils disent, en fait, pour faire l'opposition.
Il y a des choses qui relèvent de la science. Donc quand la Bible dit au début, Dieu créa le ciel et la terre, c'est de la science, ça. Aussi, c'est aussi de la science, mais c'est aussi de la théologie. D'accord ? Donc il ne faut pas avoir peur. C'est la première chose que j'ai toujours à mes fidèles, n'ayez pas peur de votre foi. Ah mais si je dis qu'Adam et Ève ont été créés directement par Dieu, tout le monde va se moquer de moi. Ben, laissez les gens raconter ce qu'ils veulent.
Ils vont se moquer.
Hein, laissez les gens se moquer de vous, mais Adam et Ève ont été créés par Dieu. Et ça, ça peut parler contre, ça va pas contre la foi, c'est l'enseignement de la foi. Donc, de pas avoir peur, vous voyez. Donc, je crois en tant que catholique. Donc, d'une part, que l'existence de Dieu peut être prouvée par la raison. Je crois que les miracles et les prophéties sont des signes très certains de l'origine divine de la religion chrétienne. Et comme cette religion est divine, elle a donc été créée, instituée directement par le Christ en personne, vrai historique, lorsqu'il vivait parmi nous, et fondée sur Saint-Pierre, qui est chef de la hiérarchie apostolique, lui et ses successeurs. Et donc que le pape est gardien du dépôt de la foi. Le dépôt de la foi est clos à la mort de Saint-Jean. Et que ça vous est tout dit. Et il ne faut plus avoir peur de ces choses-là. N'ayez pas peur d'affirmer la foi catholique.
Et il y a une autre objection que j'entends souvent, c'est par rapport au Concile Vatican II, si le pape et les évêques sont infaillibles dans son magistère universel, pourquoi, si Vatican II est hérétique, pourquoi tous les évêques ont signé le Concile?
Ben, la réponse, elle est toute simple. Pourquoi le bon Dieu a-t-il permis que tous les évêques, que tous les premiers évêques s'enfuient comme des lapins au moment de la passion? C'est ça la réponse. C'est que Dieu laisse les hommes libres. Et Dieu peut permettre qu'un pape véritable puisse pécher personnellement, même contre la foi.
Et est-ce que tous les évêques, ils ont vraiment signé pour le concile, ou est-ce que...
Non, parce que d'abord, il faut distinguer les différents décrets du concile. Il y en a plein. Donc il y a des décrets qui ont été signés par... Il y a des choses dans le Concile Vatican II qui ne sont pas forcément mauvaises. Bon, il peut y avoir des choses qui sont correctes. Si le Concile Vatican II dit qu'il y a trois personnes dans la Sainte Trinité, moi je veux bien signer le texte, même si c'est le Concile Vatican II. D'accord ? Donc, il faut voir au niveau de chacun des textes magistériels. Il y a des textes qui ont été signés par tous les évêques, mais pas tous.
Ah, donc il y a des évêques qui n'ont pas tous
signé. Bien sûr, ceux que non.
D'accord. Donc quand on me dit en objection, ils ont tout signé, en fait...
Mais de toute façon, même s'ils avaient tous signé, s'ils signent tous quelque chose qui va contre le dépôt de la foi, ils se trompent, et puis c'est tout. Ouais. Comme ça. Encore une fois, à partir du moment où une chose a été décrétée appartenant au dépôt de la foi, on est sûr que c'est de Dieu. On voit très bien dans l'histoire de l'Église comment le dépôt de la foi n'a pas changé, mais... Selon les circonstances et les ennemis de l'Église et les hérésies, l'Église va prendre dans le dépôt de la foi certains points de doctrine pour s'opposer au dépôt de la foi. Par exemple, au début de l'histoire de l'Église, quelles sont les grandes hérésies? C'est les hérésies trinitaires. Hein, toutes les grandes hérésies contre la Sainte Trinité, les hérésies contre la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le nestorianisme, c'est l'arianisme qui niait la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc qu'est-ce que va prendre l'Église? L'Église va surtout prendre dans les dogmes de foi, dans le dépôt de la foi, les choses qui regardent la Sainte Trinité. Après, vous avez ce qu'on appelle les hérésies, autant des hérésies de Béranger, c'est les hérésies contre, par exemple, contre la Sainte Eucharistie. Donc l'Église va surtout prendre dans le dépôt de la foi des textes pour rappeler que la Sainte Eucharistie contient réellement, substantiellement, le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Après, c'est le protestantisme. Le protestantisme, c'est la négation de l'Église, la négation de la grâce, la négation des sacrements, tout. Donc l'Église, c'est Concile de Trente, va prendre tout ça. Vous voyez ? Quand les gens, encore une fois, il faut savoir comment répondre aux gens, quand les gens me disent, Monsieur l'abbé, est-ce que vous reconnaissez Vatican II ? Je dis bon. Avant de répondre à votre question, je vous pose une question. Et vous répondez à ma question, après je répondrai à la vôtre. Vatican II, c'est le concile numéro 22. Je crois que c'est le 22e. Est-ce que vous croyez à tous les conciles au 21e? Est-ce que vous croyez aux 20 conciles qui ont précédé? Et ça suffit? On n'est pas... Est-ce que vous croyez à l'intégralité de tous les conciles qui ont précédé Vatican II? Les conciles fondamentaux, le concile de Nicée, qui rappelle la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, le concile de Trente contre le protestantisme, c'est des conciles infaillibles, ça. Est-ce que vous y croyez, à ces conciles? Donc, à partir du moment où le concile Vatican II dit le contraire de ce que les conciles précédents ont suivi, il n'y a pas besoin d'être un saint Thomas d'Aquin pour savoir que ça ne peut pas être vrai, c'est tout. Puisque les conciles précédents ont défini infailliblement un certain nombre de vérités. Un concile subséquent ne peut pas venir définir le contraire, c'est impossible. Sinon, c'est la quoi? Le principe de non-contradiction, exactement.
Donc, c'est un nouveau concile qui ne pourra pas réunir le concile Vatican II, alors du coup, on ne pourra pas réunir.
Mais justement, à partir du moment où le concile Vatican II s'oppose, voilà, dit le contraire de ce que l'Église catholique a enseigné de façon infaillible pendant 20
ans. Vatican III pour peut-être effacer les deux, alors pour revenir.
Non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de concile Vatican Vatican II infaillible, puisque ce concile enseigne le contraire de ce que l'Église catholique a enseigné avant. Ouais, c'est pour ça que
Vatican II.
Donc c'est la même. Le même argument qu'il faut utiliser. Le même argument qu'il faut utiliser avec le pape. Bon. À partir du moment où un pape enseigne publiquement des hérésies en matière de foi et de mœurs, est-ce qu'il est possible qu'il soit pape? Non, c'est pas possible, puisque Dieu a promis qu'un pape ne pourrait pas errer en matière de foi et de mœurs. Si un pape erre en matière de foi et de mœurs, c'est qu'il n'est pas pape. Tout simplement. C'est tout simple.
Usurpateur.
Oui, et il faut pas avoir peur, à mon avis, d'affirmer ces choses.
Pour en revenir un petit peu au concile, j'ai peut-être une ignorance historique, c'est que le concile Vatican I n'a pas été terminé.
Le concile Vatican I n'a pas été terminé, mais les déclarations qui avaient déjà été faites ont été signées et reconnues par le pape. Donc, elles sont
d'accord.
Donc, le concile n'a pas été terminé, parce que c'était la révolution d'Italie, et les parties, par exemple, toute la première partie, les constitutions Dei Filius, par exemple, sur l'infaillibilité pontificale, ont été reconnus par le pape. Donc on est tenu par ça.
D'accord.
C'est vrai que ça n'a pas été terminé.
Le 2 ou le 1, pardon.
Le 1, Vatican 1.
J'ai bien compris.
Vatican 1, c'est 1970. Voilà, bon, on va arrêter là. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire sur ce troisième point. Et la prochaine fois, on parlera du quatrième point, qui est un point très important aussi, qui dit que je rejette absolument l'invention hérétique de l'évolution du dogme. Rappelez-vous ce que je viens de vous expliquer, c'est que dans ce modernisme, il y a trois faisceaux d'erreur, l'immanentisme, l'évolutionnisme et l'agnosticisme. On va y revenir. Voilà, on va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Grâce aux anges gardiens, Saint Pédis, Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.